Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour nos émissions sur le parcours francophone. Mon nom est Amadou Ba, je suis historien. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique précoloniale, mais aussi l'histoire des descendants afro, des afro-descendants. Aujourd'hui, je vais faire un retour en Afrique de l'Ouest pour vous parler d'un empire qui a eu une durée à peu près de 100 ans, qu'on appelle l'empire du Djolof, qui, comme les autres empires, était un petit royaume, devenu empire et aussi retrouver encore le statut de royaume. Avant d'être empire, donc, c'était un royaume fondé par un monsieur qui s'appelle Djolof Meng, qui serait, d'après la tradition, un des lieutenants de Sundiata Keïta, qui est venu conquérir la région, je vais y revenir. Mais le début de l'empire coïncide sous le règne d'un monsieur qui s'appelle Ndiadan Ndiaye, en plein milieu du XIVe siècle, donc vers 1350. L'empire du Djolof englobait plusieurs états ou royaumes qui, à son déclin aussi, vont se constituer en de puissantes entités qui se trouvent notamment sur le bord de l'océan Atlantique. L'empire reposait sur une très bonne organisation politique, bonne organisation aussi économique et une structure sociale pyramidale. Alors nous allons donc voir comment s'est formé cet empire et comment il s'est véritablement étendu. L'empire du Djolof donc englobait les états du Kayor, du Baol, du Wallo, du Sine, du Saloum. Ça c'était les états Wolof ou bien Serer qui se trouvent à l'ouest, où le Wallo est un peu à l'est, mais aussi le Sine Saloum également à l'ouest. Une partie du Fouta Toro, donc dans le nord, mais également certaines parties donc du Niani Ouli qui se trouvent dans le sud-est, mais jusqu'à l'actuel Gambie. Et à son apogée surtout, à l'est, il englobait aussi une partie du Bambouk, qui est une région à cheval donc, entre le Mali actuel et le Sénégal. Donc toutes ces régions donc correspondait à ce qu'on appelle l'espace sénégambien, en fait. C'est entre le 12e et le début du 13e siècle donc, qu'on évoque donc, le début de ce royaume-là par le monsieur dont je vous parlais qui s'appelle Djolof Meng. Mais selon beaucoup de sources, c'est Ndiadan Ndiaye qui serait le fondateur de l'Empire en 1350 et qui pourrait plutôt être un personnage mythique et légendaire. En réalité, on parle de lui. Il n'est pas né dans cette région, il serait d'un père berbère, arabo-musulman en tout cas, dit-on, descendant des Almoravides, mais sa mère est une femme peul du Fouta Toro, du nom de Fatoumata Sall. Et ce même Ndiadan Ndiaye, dit-on, serait donc aussi passé par le royaume du Wallo avant de fonder l'empire du Djolof. Il y a des sources qui ne sont pas très d'accord avec ça, mais la tradition orale le mentionne. On retrouve cette information également dans d'autres écrits, dans certains livres. La construction de cet État pourrait aussi dû être à l'aboutissement du regroupement, à l'élargissement et à l'organisation du peuple Wolof actuel. En effet, c'est à cette époque donc, dans cette région du Djolof, qui se trouve comme vraiment dans le centre du Sénégal, mais aussi regroupant les royaumes donc, dont je viens de citer, qu'on retrouve des populations qu'on appelle par exemple les Peuls, les Tukulor, entre guillemets, des habitants du Tekurur, qu'on appelle aujourd'hui les Halfularen, les Serer, les Soninke, les peuples Mandé, etc., etc. Ces divers peuples, au fil des interactions et des brassages, donc finir par créer une culture homogène, ainsi qu'une langue commune. Donc, ensemble, ils vont former ce qu'on appelle le peuple Wolof, ceux du pays, les Wolofs d'aujourd'hui. Là également, il y a d'autres sources qui ne disent pas la même chose, parce qu'ici, on nous indique que le peuple Wolof actuel est né dans ce pays à l'issue d'une rencontre de plusieurs peuples. Mais quand on va lire Cheikh Anta Diop, lui, il fait venir l'origine des Wolofs depuis la vallée de l'Égypte ancienne. Donc, mais la piste la plus plausible, c'est que ce sont les peuples qui ont émigré, d'où sont sortis donc c'est cette langue, ce groupe Wolof qui serait venu de l'Égypte en réalité. Ils fonderont aussi un état du Djolof donc. Le pays de Laf comprend les régions du Wallo, du Kayor, du Djolof, du Baol et le mot Laf donc qui signifie la rive. Donc Wolof signifie donc les riverains. Wa, le mot Wa en général, c'est ce qui appartient à. Donc Wa tel, donc c'est Wa, c'est ça, les riverains du Laf. Il est important aussi de parler un peu de la civilisation du Djolof, comment le Djolof était structuré socialement. En fait, la société Wolof est comme toutes les autres sociétés de la région ouest-africaine, de la Sénégambie et puis du savane, de la Sahel, du Sahel tout simplement. C'est une société hiérarchisée. Elle a une division, elle est divisée en clans et en castes. À côté de cette division en famille, il existe aussi une division à la forme pyramidale où le sommet de cette division est géré et contrôlé par une noblesse. Et c'est les Wolofs, cette noblesse donc, ce sont d'abord les Garmi qui constituent la famille royale et ayant droit à la couronne. Hein. Ensuite, on a aussi les Ndiambour qui sont aussi des hommes libres et propriétaires terriens, mais aussi c'est là où on a les marabouts, les lettrés en général, et aussi les Badolo qui sont des roturiers libres, mais qui ne sont pas riches en fait, qui sont des hommes libres mais pauvres en réalité. Et le terme Badolo d'ailleurs aujourd'hui, il est très péjoratif. Dire en sénégalais que yo badolonga ou bien ti zon badolo, c'est presque une insulte. Donc ça renvoie à la misère, à la pauvreté. Même si ces gens-là étaient pauvres, c'était des gens quand même libres. Il y a aussi les autres castes, hein, après cela, les castes des forgerons, qu'on appelle les thugs, les bijoutiers, qu'on appelle les oudés, les cordonniers, qu'on appelle aussi. Oui, les cordonniers, c'est les oudés. Les thugs, ce sont les forgerons et les bijoutiers. Mais aussi, nous avons les tamakhat, ceux qui jouent la musique, les tamas et tout ça. Les khalaban, qui chantent en utilisant la guitare. Les malo et les bambado, qui sont également une sorte de troubadour, de griot, hein, parfois qui s'occupent qui sont des tisserands ou bien des tamakhat, etc. On a également les seigneurs et les laobés, qui sont les fabricants de pirogues et des ustensiles de cuisine. Mais aussi, enfin, on a les griots, qu'on appelle, c'est les wolofs, les gueules, ou c'est les poulards, les gaoulots, donc qui sont des conseillers de la cour royale et qui, donc, retracent l'histoire, etc., etc. Mais qui aussi qui étaient des chanteurs, hein, etc. À la fin de cette base pyramidale, tout en bas, on a les djams, hein, ou les captifs, qui sont divisés en captifs de couronne, les djambours. Hein, donc, ce sont les cap ici, certains utilisent le terme esclave, mais en réalité, ce n'est pas la même définition que l'esclave dans son entendement occidental européen. On peut peut-être parler de captifs, hein, mais ici, les djambours étaient des captifs de la couronne et pouvaient jouer un rôle très, très important. Il y a aussi les Djami Djoudous, les captifs de naissance, et les Djami Senior, les captifs qui ont été achetés. Donc l'ensemble de ces captifs d'une personne ou d'une famille sont appelés galop, par exemple. Alors ici, simplement, cette histoire de captifs montre simplement comment aussi les sociétés ont été affectés par l'esclavage, affectés par l'esclavage transsaharien, mais aussi l'esclavage transatlantique, et comment progressivement, donc, avec ces guerres multiples, on arrive aussi à des sociétés où la captivité était très très élevée. Alors, pour ce qui est de l'organisation politique, il faut rappeler en ce qui concerne donc l'Empire du Jolof, il était divisé en lamanas, hein, les territoires qu'on appelle les lamanas. Et le dirigeant de chaque territoire, hein, comme l'équivalent, c'est peut-être le gouverneur, on l'appelait le laman. Et à la tête, hein, de l'Empire, il y avait le bourba, hein, le bourg, donc c'est le roi, bah, c'est le grand roi en fait, un peu comme l'équivalent du Mansa dans l'Empire du Mali. Le bourba est assisté donc dans son gouvernement par les dignitaires et l'héritier présomptif aussi, le vice-roi et les chefs de canton, les chefs locaux des 12 villages et les grands électeurs les gouverneurs de province. Donc c'était comme ça qu'il était structuré, c'est un peu une forme décentralisée également du pouvoir, c'est comme ça que fonctionnait l'Empire du Jolof. Sur le plan économique, on rappelle que le système économique du Jolof s'y reposait exclusivement donc sur l'agriculture. Donc nous avons l'agriculture pendant la saison des pluies, qu'on appelle le Nawet, hein, pendant 3 à 4 mois avec la pluie, mais aussi l'agriculture au bord du fleuve, hein, quand le fleuve se retire, les gens vont cultiver. Ici, on va produire les deux formes d'agriculture, dont le mil, le riz, les tubercules, toutes sortes de choses, hein, les melons, les pastèques, etc. Mais également, on a l'élevage, qui est vraiment une grande activité d'élevage de bétail, de vaches, de chèvres, de moutons. Mais ici, c'est une partie des pôles nomades qui contrôlent cela. On a la pêche, qui était aussi une activité très importante dans l'Empire du Jolof. D'abord, la pêche sur l'océan Atlantique. Hein, les Sénégalais sont de très grands pêcheurs. Aujourd'hui encore, la pêche fait partie d'une des plus grandes activités. Mais aussi sur les fleuves. Il y a le fleuve Gambie, il y a le fleuve Sénégal, mais aussi il y a les marais, il y a énormément de cours d'eau où on pratique cette pêche-là. Il y a aussi l'artisanat, le commerce qui était soit un commerce de troc, d'échange, mais aussi entre le commerce transsaharien, mais aussi après le commerce avec les Européens sur l'Atlantique. L'agriculture est le secteur donc dominant et suivi donc des autres. Le commerce donc aussi était très très important. L'organisation religieuse, au plan religieux, dès le début de sa création, on peut dire que l'islam est venu cohabiter avec la tradition, notamment ici dans l'Empire, la tradition des Tchédo. Et grâce aux marabouts, hein, notamment des marabouts venus du Futatoro ou des marabouts mandingues, des Soninké, mais aussi des Maures, on va voir l'islam va se développer. Les plus connus d'ailleurs, vers la fin au début du 19e et tout le milieu du 19e, ce sont par exemple les grands érudits, les grands marabouts comme El Hadj Malik Sy, Cheikh Amadou Bamba, qui aujourd'hui ont pu mettre en place des grandes confréries suivies par pratiquement une bonne partie des Sénégalais. comment l'empire de Djolof s'est disloqué. L'empire de Djolof donc a pris fin à partir de 1549. Donc c'est pratiquement 100 ans pile quoi, parce que 200 ans, excusez-moi, 1350 et 1549, c'est pratiquement 200 ans. Et c'est quand l'empereur Djolof, qui dit nom de Lele Foulifak, a été tué lors de la bataille de Danki par le roi du Kayor, donc en état vassal, qui dit nom de Amaringo Nesabel Fall. Et celui-là avait une supériorité militaire parce que le Kayor était ouvert sur l'Atlantique et il avait pu obtenir aussi des armes un peu de chez les Européens. Parmi donc les premières causes de la chute, donc, il faut dire qu'il y a la conquête du royaume aussi du Namandir, qui était un vassal de Djolof. Ce Namandir a été conquis par le roi du Fouta Toro, Koli Tengela, qui non seulement va sortir du Fouta, par exemple, de Djolof, mais aussi va reprendre une partie de Djolof durant ses conquêtes. Ça, encore, ça va affaiblir le Djolof. Le Djolof est resté aussi vassal de l'Empire du Mali. Hein. Ce n'était pas vraiment un empire aussi puissant que l'Empire du Mali à cette époque-là. Mais même si le Djolof était un empire, il était à l'intérieur de l'Empire du Mali qui coiffait tout ça. Et à partir aussi de là, il y a aussi les autres États alliés et tour à tour, une fois que le Djolof est affaibli, ils vont prendre leur indépendance. Le Baol, le Sine, le Saloum, tous vont sortir et le Djolof va se réduire au statut donc de royaume. Il va rester un royaume pratiquement jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle. Elle va disparaître définitivement avec les colons français qui vont annexer progressivement donc tous les royaumes du Sénégal à partir donc de Saint-Louis où étaient installés donc les Français et puis qui vont lancer la conquête au Sénégal. Donc le Djolof fut le dernier royaume annexé et le dernier donc Bourba Djolof, c'est Bouna Alboury Ndiaye, le fils d'Alboury Ndiaye sous l'impulsion de Louis Federbe. Alors, pour ce qui est de l'ouverture atlantique, il faut rappeler qu'elle a provoqué un croissement sensible du volume des échanges et un déplacement du centre économique. C'est pareil pour les autres empires. On a vu le Mali, quand donc, il y a eu l'ouverture atlantique, donc le commerce s'est déplacé transsaharien vers le commerce atlantique. On l'a vu également pour le Congo, on a vu ça pour le Bénin, on a vu ça pour tous les royaumes africains. Dès que les Européens sont installés sur le côte, le noyau économique va se déplacer. Et le Djolof n'a pas été aussi une exception à cela. Donc, en effet, l'installation européenne sur les côtes ouest-africaines a permis donc à certains royaumes côtiers, vassaux donc du Djolof, que nous avons cités, à savoir le Kayor, le Sine, le Saloum, d'entretenir des relations commerciales avec le Portugal d'abord, ensuite avec les Hollandais, ensuite les Français et même les Britanniques. Et ces royaumes donc vont devenir plus riches et plus armés que le Djolof. Et ça va être aussi des royaumes négriers, en fait, qui vont participer activement à la traite des négriers pour aussi tout tirer des armes. Un peu comme nous l'avons vu dans notre cours sur l'Empire Ashanti, dans ses rapports aussi avec les Européens. Donc, une fois que ces royaumes sont devenus forts, ils ont réclamé leur indépendance et ça aboutit à la dislocation de Djolof dont nous avons parlé vers 1549. C'est véritablement ça qui a provoqué, mais aussi il y a le fait que le Djolof a été aussi affaibli par un certain nombre de problèmes internes, parfois les successions, parfois aussi l'esclavage transsaharien et puis l'esclavage transatlantique et puis la cohésion sociale en avait pris un coup. Une fois que l'empire de Djolof donc disparaît, on va voir que les anciennes provinces donc deviennent autonomes et vont s'ériger en monarchie souveraine. Ils sont parfois dirigés par des rois dont les titres vont varier. Par exemple, le Fouta donc va se réorganiser et va même constituer une Almamia après la révolution Torodo dans les années 1770. Mais avant cela, il était dirigé par Koli Tengela, Koli puis son fils Tengela, Tengela puis son fils Koli. De la dynastie de Deni Yankobe. Ensuite, le Wallo, donc d'où tout est parti, hein, pays côtier qui s'étend entre l'Atlantique et le Djolof, d'ouest en est, sur les deux rives du fleuve Sénégal. Un pays donc reconnu pour la pêche, hein, on sait que les grands pêcheurs de Saint-Louis, de Guetnard, hein, des paysans également, des éleveurs. Et le Wallo, lui, était dirigé par un baraque assisté donc conseil est divisé en provinces. Donc le Wallo devient aussi indépendant. Pareil pour le Kayor et le Baol, qui sont situés sur l'embouchure du fleuve Sénégal et la presqu'île du Cap-Vert. C'est aussi des royaumes puissants avec un damel pour le cailleur, Améry Gwane Sobel, et le Bawal avait un damel avec un teigne, avec aussi pour capitale Lambaye près de Djourbel. Il y a le Sine Saloum, c'est deux royaumes serrères également, qui étaient donc les vassaux de Djolof qui ont également pris leur indépendance. En gros, c'est véritablement ça l'histoire donc de Djolof, qui n'est pas aussi à confondre avec l'histoire de l'ethnie Wolof, car ici, le noyau de l'empire de Djolof, c'est même actuellement le centre du Sénégal dans la région du Ferlo, des villes comme Linguère, etc., qui ne sont pas forcément un pays Wolof, contrairement par exemple au Kayor, au Baol ou le Wallo. Il faut également comprendre que la destruction donc, a entraîné l'émergence des royaumes puissants qui sont ouverts sur l'Atlantique. Et puis l'autre chose également, c'est que la destruction du Djolof a permis aussi à Kori Tengala et au Tekurur, et plus tard Futatoro, donc, de devenir aussi un état très très puissant dans la région. Voilà ce que nous voulions vous parler aujourd'hui, partager donc cette histoire de l'empire de Djolof en mentionnant les grands points. Il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles on n'a pas pu rentrer en détail parce que l'objectif c'est de donner des informations assez rapides et précises aussi pour mieux faire comprendre l'histoire de cette région de l'Afrique. Voilà, prochainement nous reviendrons peut-être sur un autre royaume ou empire ou bien une grande personnalité aussi de l'Afrique ou de sa diaspora.